Nous sommes dans une période de vacances et de délassement pour beaucoup, déjà. Nous allons même parler de foot, pas de défaite ni de victoire, rassurez-vous, et du Tour de France qui se termine aujourd'hui. Nous pouvons effectivement, à ce sujet, être impressionnés dans ces époques où les temples et les églises ne rassemblent pas foule, de voir tous ces joueurs et coureurs faire des signes de croix et embrasser des médailles religieuses. Est-ce que le Dieu auquel nous croyons doit choisir entre deux équipes, néerlandaise ou espagnole? Est-ce qu'il doit choisir entre un coureur espagnol ou luxembourgeois? Faire un miracle pour un maillot, pour un podium? Eh bien, en cette période de compétition pour être au sommet, nous allons entendre une histoire de miracle, mais aussi d'humilité et de don. Comme souvent dans la Bible, ce n'est pas le miracle qui est le plus important. Choisir un texte du Premier Testament pour la prédication n'est pas courant, mais nous allons voir qu'il y a proximité, on dirait filiation. L'épisode que nous venons d'entendre suit déjà une histoire de miracle. Dieu, à la demande d'Élisée, avait permis à une Sunamite d'enfanter et avait ressuscité l'enfant après son décès prématuré. Le récit de ce jour est différent par les personnages, mais semblable par la discrétion de l'intervention de Dieu. C'est d'abord une petite fille, esclave de surcroît, mais qui ne renie pas sa foi en Dieu. Elle a été enlevée et déplacée, bien que contre son gré, dans le pays des oppresseurs. Elle est en tant que femme, petite fille même, et esclave, dans la condition la plus misérable de la société. Et pourtant, elle s'exprime pour témoigner de la puissance du Dieu d'Israël chez les païens, qui sont des adorateurs de Rimmon. Sa fidélité en Dieu l'amène à pardonner à son ravisseur et à vouloir le faire bénéficier de la puissance du Dieu auquel elle croit. Elle prend un risque, sa foi n'imaginant pas que Dieu puisse refuser de répondre à une demande, même pour un étranger. Donc, il y a pardon à son ennemi, il y a même, en l'adressant à Dieu, une forme de prière d'intercession pour lui. C'est exactement la recommandation de Jésus dans l'Évangile. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le roi de Syrie, autre personnage, va demander au roi d'Israël de guérir son serviteur. On remarque en passant que tous ces personnages demandent pour quelqu'un d'autre. Il faut noter que Naaman lui-même ne demande pas. Il s'arrête à la porte d'Élisée. Celui-ci est un homme simple, comme Dieu sans doute les aime. Certes, c'est un prophète, mais c'est aussi un ancien laboureur appelé de derrière ses bœufs et qui vit très simplement. Ainsi, c'est dans la simplicité extrême que Dieu se manifeste et que la guérison peut survenir. Dans l'évangile de Luc, il est fait allusion à cet épisode, à un passage. Il est écrit « Il y avait plusieurs lépreux du temps d'Élisée, et cependant, aucun d'entre eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Simplicité, mais aussi déplacement, géographique ou psychologique, et à la fin, on l'a vu, spirituel. Il y a un changement de regard, la disparition des préjugés et un retour à l'identité humaine, vraie et simple, dégagée des plaquages de la société. Chacun doit se retrouver lui-même. C'est là que Dieu l'attend. L'évangéliste Matthieu cite Jésus. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans les cieux. Dieu est présent dans nos vies, mais il faut se tourner vers lui. C'est ici le chemin de Naaman le Syrien. Car c'est Dieu, et lui seul, qui agit. C'est ainsi qu'Élisée ne sort même pas de sa maison. Ce n'est pas un manque de respect envers cet important personnage qui pourrait nuire gravement à Israël. Non, il veut montrer que c'est Dieu qui guérit et non pas l'humain qu'il envoie. Ce dernier n'est qu'un instrument au service de l'Éternel. Ambroise Paré, le célèbre chirurgien des armées napoléoniennes, quand on le félicitait d'un de ses succès, disait « Je l'ai soigné, Dieu l'a guéri ». Nul besoin, nous l'avons vu, de sacrifice, d'offrande à Dieu ou à ceux qu'il représente, ou de gestes compliqués. C'est là un autre chemin que découvre Naaman. Le Dieu auquel nous croyons aussi n'est pas comme ceux qu'imaginent les païens. Il n'y a pas de manifestation grandiose, pas de scoop comme les recherchent les médias pour avoir de l'audience. Pas de maillot jaune, pas de finale sur les Champs-Élysées. Souvenons-nous que Dieu s'était manifesté à Élie, non dans la tempête, non dans le tremblement de terre, ni dans le feu non plus, mais dans un souffle léger. Naaman reconnaît l'Éternel comme Dieu et, s'humiliant devant son envoyé, demande à être pardonné pour les gestes inutiles qu'il sera obligé de faire dans la maison de Rimmon pour obéir à son maître, le roi de Syrie. C'est dans l'amour que Dieu nous attend. C'est par l'amour que nous le trouvons. C'est dans la simplicité, mais aussi la gratuité, que Dieu agit. Naaman, le chef de guerre, n'a à nos yeux rien fait de méritant. Un des messages du Christ est que cet amour que nous voulons lui porter et dans l'impossibilité où nous sommes de le voir, c'est aux frères humains, faits à son image, que nous pouvons le donner. Et on en revient à la prière, à la demande de la petite esclave et à la lecture de l'évangile du jour sur la prière. On peut mieux maintenant comprendre les rapports entre le texte du jour et l'évangile de Jésus-Christ. Ce petit récit du début des Écritures est un véritable catéchisme. C'est une grande histoire de fidélité, de cheminement et de pardon. C'est déjà la bonne nouvelle de l'amour gratuit de Dieu qui sera manifesté pour tous les hommes en Jésus-Christ. Voici une petite fille dont on ne connaît même pas le nom, humilité toujours, qui est déjà dans une attitude évangélique. Pardonnez comme votre Père du ciel vous pardonne, aimez vos ennemis, et j'ajouterai, et en plus, priez, non pour vous, mais pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit également d'un chemin de conversion. Le voyage de Naaman n'est pas qu'un déplacement géographique, mais une véritable conversion à Dieu. Nous pensons qu'il éclaire un chemin pour rencontrer Dieu, où celui-ci nous attend le premier. Nous pensons l'aimer, mais c'est lui qui nous aime en Jésus-Christ, et combien plus. Le pardon de la petite esclave, qui donne le bon conseil à celui qui l'a enlevé, ce pardon qui sauve et guérit, Luther disait, pécheur est pardonné. Nous vivons dans l'Évangile avec ce message de pardonner, comme nous sommes nous-mêmes pardonnés. Pas pardonnés pour être pardonnés, mais pardonnés parce que nous avons été pardonnés. Nous pouvons comprendre que c'est une histoire d'amour, mais désintéressée. C'est aussi, et surtout, l'affirmation que le Dieu de tout l'univers, créateur du ciel et de la terre, est présent dans l'histoire des hommes. Mais comme l'a incarné Jésus-Christ, pour respecter l'humain, créé à son image et comme à sa ressemblance, c'est dans la faiblesse qu'il intervient. Dans ce texte, Dieu se révèle dans la discrétion et les humains chargés de le manifester se trouve le fond dans la situation où il se trouve, esclave ou chef des armées. Il est difficile de reconnaître le Dieu des Écritures dans les demandes de succès médiatiques éphémères. Bien sûr qu'il doit être présent dans le monde, donc aussi dans le Tour de France, mais peut-être n'est-il pas où on l'attend. Oui, Dieu est partout, en Syrie ou en Israël, à Jérusalem ou ici à Annecy. Il est pour tous, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, faibles ou puissants. Il suffit de le chercher, il nous attend déjà. Il suffit de demander, il nous donnera. Mais on peut éclairer cette affirmation. Pour nous, nous pouvons croire avec confiance que Dieu sait ce qu'il nous faut. Alors demandons-nous. Pourquoi demander ? Les textes entendus ce jour nous répondent, non pas pourquoi, mais pour qui ? Pour les autres, pour ceux qui ne savent pas ou pas encore. En effet, ce n'est pas Naaman qui demande, c'est la petite esclave qui est sûre de son Dieu qui demande pour lui. C'est Naaman qui reconnaît qu'il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Demandez et on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est ainsi que l'Évangile du jour nous encourage. Pour cela, n'attendons pas de manifestations extraordinaires. Soyons témoins à notre place, ici à Annecy, ou partout ailleurs quand l'occasion se présente. Que cette période de déplacement nous aide aussi à nous mettre en route vers celui qui donne sens à notre vie. Ne laissons pas cet amour de Dieu que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ dormir et soyons prêts à en faire profiter les sœurs et les frères quand ils sont dans la nécessité. Seigneur, toi le Dieu fort qui vient à nous dans la faiblesse, donne-nous de témoigner dans notre faiblesse de la force de notre foi. Amen. Et je laisse la place à Johanna pour un petit résumé en hollandais.
Het eenvoudige slavinnetje in dienst van de vrouw van Naaman vraagt iets voor haar meester, voor een ander dus. Later in het verhaal vraagt de koning van Aram aan de koning van Israël of hij zijn officier Naaman wil genezen. Dus ook hij vraagt voor een ander. Naaman vraagt niets. Hij gaat naar het huis van Elisa, de eenvoudige profeet, en hij blijft buiten wachten. God openbaart zich weer in een eenvoudige persoon. En Naaman wordt genezen zonder vertoon van macht of poespas, zonder publiek en zonder cadeaus, in alle eenvoud dus. God houdt het eenvoudig en zijn hulp en liefde zijn ook nog gratis. Naaman, als hoofd van het leger, had het niet echt verdiend om genezen te worden. Maar God wacht op ons en dankzij zijn liefde vinden we hem, net zoals Naaman. Dit verhaal in het Oude Testament kondigt al het evangelie aan, de liefde van God door Jezus. God is er, hij is aanwezig in ons leven, maar wij moeten de eerste stap maken. De liefde die we aan God willen geven, maar niet kunnen, omdat we hem niet zien, die kunnen we aan onze naaste geven. En zo komen we bij de andere tekst van vandaag, het gebed. We mogen geloven dat God weet wat we nodig hebben. Waarom moeten we dan nog bidden? De tekst geeft het antwoord. Niet waarom moeten we bidden, maar voor wie? Voor de ander. Voor degene die nooit die eerste stap tot God hebben gedaan. Naaman vraagt niet, het is het slavinnetje, zeker in de liefde van haar God die voor hem vraagt. Maar dan is het Naaman die zegt, nu weet ik dat er op de hele aarde geen andere God is dan de God van Israël. Vraag en je zult krijgen. Wie zoekt, zal vinden. en voor wie aanklopt, zal worden opengedaan.